Le martyr de Kerbela. Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Chers auditeurs, nous reprenons le récit de la tragédie de Ashura et Kerbela au moment où Muslim, l'envoyé de l'imam Hussein à Koufa, abandonné de tous, se trouve accueilli par une vieille femme qu'il a croisée dans une ruelle à la tombée de la nuit.
Quand le fils de Tawar entra à la maison, il remarqua les va-et-vient inhabituels de sa mère vers la pièce où elle avait caché Muslim. Il chercha à savoir de quoi il retournait et, finalement, après qu'il ait juré de ne rien dire, sa mère lui révéla qu'elle avait offert asile à celui que tous les hommes du gouverneur recherchaient. Puis ils allèrent dormir, tandis que Muslim, seul avec Dieu, passait la nuit en prière.
À l'aube, Obeidullah, fils de Ziyad, fit proclamer dans toute la ville l'ordre de venir assister en sa présence à la prière de l'aube. Quiconque parmi les chefs de tribu et notables de la ville ne se rendrait pas à la mosquée sera exécuté et ses biens confisqués.
Après la prière, le gouverneur monta en chaire et annonça que celui qui donnait abri à Muslim, fils de Aqil, le payerait de sa vie et de ses biens, tandis que toute personne qui aiderait à sa capture se verrait largement récompensée.
Le fils de Tawa se leva alors pour livrer Muslim, et une troupe de 70 hommes fut envoyée pour l'arrêter. Lorsqu'il entendit le bruit des chevaux qui s'approchaient, Muslim comprit ce qui se passait.
« Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » En vérité, nous sommes à Dieu, et en vérité, nous retournons vers lui.
Il se leva d'un bond, l'épée à la main, et se précipita vers la porte. Tawa aussi avait entendu, et elle avait compris que son fils les avait trahis. Elle supplia Muslim de ne pas douter d'elle, et il la rassura.
« Tu as fait tout ce que tu pouvais faire, Tawa. » Et tu bénéficieras de l'intercession de l'envoyé de Dieu. Cette nuit, à un moment où je m'étais assoupi, j'ai vu mon oncle, le commandeur des fidèles, l'imam Ali, fils d'Abu Talib, que la paix soit avec lui. Il m'a promis, demain, tu seras auprès de moi.
Muslim bondit dans la ruelle et se trouva face à face avec les hommes de main de Ubaidullah. Il se battit comme un lion. Tuant et blessant beaucoup d'entre eux. Malgré leur nombre, ils ne parvenaient pas à prendre le dessus. Ils eurent beau promettre à Muslim la vie sauve. Que pouvait bien valoir la parole d'un homme de Koufa ?
Ils en vinrent à le lapider du haut des toits et à le bombarder d'objets enflammés, jusqu'à ce que, épuisé, couvert de blessures, Moslem s'écroule, frappé d'un coup de lance dans le dos.
Les soudards s'emparèrent de lui, le chargèrent sur une mule et l'emmenèrent vers la citadelle. Mouslem ne pouvait retenir ses larmes et ses hommes, qui venaient d'être témoins de son courage, s'en étonnaient. « Pourquoi pleurer ainsi? Redouterais-tu la mort ?»«
Ce n'est pas pour moi que je pleure, mais pour mon seigneur et maître, l'imam Hussein, fils de Ali, ainsi que sa famille, traîtreusement appelée par tous ces hypocrites. Le voilà qui a quitté les lieux saints et se dirige vers nous, et ses pleutres maintenant l'abandonnent lâchement. Inna lillah, wa inna ilayhi raji'un. En vérité, nous sommes à Dieu, et en vérité, nous retournons vers lui. »
Mouslem fut conduit à la citadelle. Obeidallah ordonna qu'on le mène sur le toit, et que là, devant la foule rassemblée, on lui tranche la tête.
C'était le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, le mois du pèlerinage à la Mecque.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
Ce jour où tous les pèlerins, venus des contrées les plus lointaines, sont rassemblés dans la plaine de Arafat et réunis autour du mont de la miséricorde.
La شريك لك لبيك.
La tête du premier martyr du soulèvement de l'imam Hussein tomba et roula au pied de la foule atterrée. Puis son corps fut jeté du haut de la citadelle.
Hani, l'un de ceux qui avaient hébergé Mouslem, avant d'être dénoncé et arrêté par les hommes du gouverneur, fut conduit au marché aux moutons pour y être lui aussi décapité. Hani était un des chefs de la tribu Madhaj, et il pouvait se vanter de pouvoir lever 4000 cavaliers armés parmi les siens, et de pouvoir en réunir 30 000 autres parmi les tribus qui lui étaient alliées.
À moi les Madhaj! Je suis Hani, fils de Urwah, votre chef. N'y a-t-il donc plus de Madhaj aujourd'hui pour venir me défendre?
Mais le climat de terreur que Obeidallah avait réussi à répandre dans la ville était tel que pas un seul Madhaj ne vint au secours de Hani. Et la tête de Hani fut tranchée.
D'autres personnalités connues pour avoir soutenu Mouslem furent encore arrêtées et exécutées. Les corps de Mouslem et de Hani furent attelés à des chevaux et traînés à travers les rues de Koufa pour terroriser encore davantage la population. Puis ils furent pendus à une potence sur le marché aux moutons. Quant à leurs têtes, elles furent le premier cadeau que Obeidallah, fils de Ziyad, envoya à Damas pour réjouir Yazid, fils de Moavia, le calife Omeyyade.
Ce dernier fut fort satisfait de l'œuvre de son gouverneur. Il ordonna de suspendre les têtes aux portes de Damas et envoya une lettre pleine d'éloges, de remerciements et de conseils.
J'ai ouï dire que Hussein, fils de Ali, se dirige vers l'Irak. Surveille donc toutes les routes, emploie tous les moyens possibles pour t'emparer de lui, et surtout, tue-le, et informe-moi chaque jour de tout ce que tu fais.
La veille de ce jour à la Mecque, l'imam Hossein, la paix soit avec lui, se mettait en route pour l'Irak. Avant d'être trahi, Moslem avait envoyé des lettres encourageantes à son cousin à propos de la situation à Koufa. Des milliers de personnes, dont les principaux notables et chefs de tribu, ne lui avaient-ils pas fait allégeance en tant que représentant et homme de confiance de l'imam?
Cela faisait maintenant 4 mois que Hussein, fils de Ali, que la paix soit avec eux, vivait à l'ombre de la Sainte Kaaba, se consacrant à l'adoration de Dieu et aux pratiques spirituelles. Des fidèles, venus du Hijaz et de Basra, avaient commencé à se rassembler autour de ce Seigneur. Au début du mois du pèlerinage, l'imam prit l'intention de faire le Hajj, le grand pèlerinage, et prononça les formules de consécration.
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك Me voici tout à toi, ô mon Dieu, me voici tout à toi. La louange et la grâce en vérité sont tiennes, ainsi que le royaume, sans le moindre associé. Me voici tout à toi.
À la veille du grand rassemblement de Arafat, autour du mont de miséricorde, un hôte imprévu fit son apparition. Amr, fils de Saïd, fils de Os, ce rejeton d'une famille dont l'hypocrisie ne parvenait pas à dissimuler la haine pour la religion de Dieu, et qui s'était bien mal illustré dans les précédents affrontements entre les Omeyyades et la sainte famille de prophètes que Dieu prit sur lui et les siens. Amr, fils de Saïd, fils de Os, arriva à la Mecque avec une forte escorte manifestant l'intention de faire le pèlerinage.
L'imam n'était pas dupe. Il savait bien qu'il était lui-même l'agneau que ces hommes rêvaient d'offrir en sacrifice, non pas à Dieu, mais au pouvoir omeyyade, leur nouvelle idole. Mais il savait aussi, lui, que le lieu où il devait être sacrifié n'était pas le sanctuaire de la Mecque, ni son territoire sacré. Il savait, lui, que l'heure de son immolation n'était pas dans cette décade sacrée du mois du pèlerinage, mais une autre décade. Il savait ce qu'il devait faire maintenant pour aller vers l'autel de son sacrifice, un autel qui avait pour nom épreuve et affliction.
Ainsi, à la veille de ce grand jour du pèlerinage, l'imam Hussein accomplit à la surprise de tous les rites de désacralisation. Il tourna 7 fois autour de la Kaaba, l'axe spirituel du monde, tandis que son cœur tournait autour du trône divin, et il parcourut 7 fois l'esplanade entre les collines de Safa et Marwa, entre la crainte et l'espérance, ces 2 ailes de la foi.
Il pouvait maintenant quitter le territoire sacré. Il se leva, et après avoir loué Dieu et prié sur son envoyé, que les prières et la paix divine soient sur lui et les siens, il harangua la foule.
Ô gens, la mort est suspendue au cou des fils d'Adam comme un collier au cou des jeunes femmes. Je suis épris de revoir tous mes chers disparus, tout comme l'était Jacob de revoir son Joseph. Il faut m'acheminer à la rencontre de la mort et du trépas qui furent choisis pour moi. Je vois déjà les jointures de mes os déchiquetées par les loups du désert dans une terre du nom de Karbala, terre d'épreuves et d'afflictions, pour repaître le ventre vide de leurs vains espoirs. On élude ni ne fuit ce que la plume du destin a tracé pour chacun. Et nous, gens de la demeure prophétique, nous avons acquiescé, pleinement satisfaits, à tout décret de Dieu et affrontons avec belle patience chacune de ces épreuves. Maintenant, ceux qui ne se font pas souci d'offrir leur vie dans notre voie et ne rechignent pas au sacrifice de soi en vue de rencontrer la vérité suprême, qu'ils plient armes et bagages et se joignent à moi, car demain, la caravane se mettra en route.
L'imam ayant ainsi annoncé son départ imminent, son demi-frère, Muhammad ibn al-Hanifiya, vint le trouver pour l'en dissuader.
Frère, tu n'ignores pas ce qu'ont fait les gens de Koufa avec ton père et ton frère, et comment ils les ont trompés et trahis. Je crains qu'ils ne fassent de même avec toi. Si donc tu décidais de rester à la Mecque, qui est le sanctuaire de Dieu, tu serais respecté et honoré, et personne n'osera porter la main sur toi.
Frère, je crains fort que Yazid ne me fasse périr à la Mecque et que cette vénérable demeure soit ainsi profanée.
En ce cas, rends-toi donc au Yémen, ou bien dirige-toi tes pas vers le désert, afin que nul ne puisse mettre la main sur toi.
C'est une proposition qui mérite réflexion.
À l'aube, cependant, la caravane de l'imam Hussein se mit en route en direction de l'Irak. Dès que Muhammad ibn al-Hanafiya eut vent de ce départ, il rejoignit en hâte la caravane et saisit les rênes de la chamelle de l'imam.
Frère, ne m'avais-tu pas promis de réfléchir à ma proposition d'hier?
Si, je te l'ai promis.
Alors pourquoi quitter la Mecque avec autant de précipitation?
C'est que, juste après ton départ, le prophète, Dieu prit sur lui et les siens, est venu me trouver et m'a dit « Hussein, va, mets-toi en route. En vérité, Dieu veut te voir tomber dans sa voie. »
« Inna lillah, wa inna ilayhi raji'un. » En vérité, nous sommes à Dieu et en vérité, nous retournons vers lui. Mais si ta destination est ainsi, le martyr, pourquoi donc emmènes-tu ces femmes avec toi?
C'est que Dieu veut les voir captives.
Le cœur serré d'une détresse immense et les yeux pleins de larmes, Muhammad ibn al-Hanafiya fit ses derniers adieux à son frère et imam, puis rebroussa chemin. La caravane de fidèles et de proches reprit paisiblement sa marche vers son destin grandiose.